sexe, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on le fait. Contrairement à ce qui se pense et se dit trop souvent, les études prouvent que les jeunes qui ont bénéficié d'une éducation sexuelle ne sont pas plus actifs sexuellement. En revanche, ces jeunes sont par exemple plus à même d'éviter la violence sexuelle et d'utiliser des moyens de protection contre le VIH ou les grossesses non désirées. Parmi les méthodes et moyens d'information qui semblent les plus efficaces, l'école est particulièrement bien placée. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Nous sommes avec Marinette Thiem-Touré, nouvelle bachelière, championne à ASMAD, membre des jeunes ambassadeurs de la planification familiale. Bonjour Marinette.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Prosper Sansan Kambiré, étudiant, membre du mouvement d'action des jeunes de l'association Burkinabé pour le bien-être familial, ABBF. Bonjour Prosper.
Oui, bonjour.
Comme dans toutes nos émissions, nous ne nous limitons pas à poser des questions. Nous partageons aussi des histoires vécues par des jeunes. Chers auditeurs, notre histoire du jour s'intitule « Ma petite sœur me parle de sexualité ». Écoutons.
Sur le chemin de retour de l'école, Armel se fait rattraper par sa petite sœur Edine. Edine était en train de discuter avec ses camarades de classe de la visite d'une dame à l'école. La jeune fille est très excitée de partager sa découverte avec sa grande sœur.
Armel, Armel, attends-moi.
Qu'est-ce que tu faisais toujours à l'école? Je t'ai attendu en vain. Tu sais bien que papa n'aime pas quand on traîne à l'école après les cours.
J'étais restée bavarder un peu avec Laure et Alice.
De quoi? Et puis vous avez duré comme cela?
Je te dis pas. Une femme est venue nous parler de sexualité.
Ah bon? À votre âge là, et on vous montre déjà comment on fait des bébés.
Non, ce n'est pas ça. Elle nous a dit que notre corps va changer.
Comment ça?
Oui, on aura même des seins comme maman. Elle a aussi dit qu'un jour, on verra du sang dans nos slips et qu'on ne doit pas avoir peur parce que c'est normal. Et puis même, ça arrive à toutes les filles à un moment donné.
Depuis quand parle-t-on de règles à l'école? On ne nous a jamais parlé de ça.
Ah bon? Nous? Elle nous a aussi dit que quand on décidera d'avoir des rapports sexuels, il faudrait qu'on se protège pour ne pas attraper des maladies ou tomber enceinte. Mais avant tout, il ne faut pas être pressé. On doit attendre que notre corps soit prêt.
À l'âge de 12 ans, personne ne m'a parlé de sexualité. Lorsque j'ai vu mes règles pour la première fois, j'ai eu peur et j'ai beaucoup pleuré parce que je croyais que j'étais malade. J'aurais bien aimé avoir ces informations avant. J'espère que la prochaine fois, votre femme viendra dans notre classe.
J'ai hâte de raconter cela à maman.
Ah, Dia, si tu parles de ça à maman là, elle va se fâcher.
Mais pourquoi?
Toi-même, tu sais qu'à la maison, on ne nous parle pas de sexualité. Je te conseille de te taire avant que papa ou maman ne nous entendent.
Nous venons d'écouter cette histoire de Armel et sa petite sœur Edine. Que pensez-vous de cette histoire, Marinette?
Je trouve que c'est bien d'en parler. L'histoire a été bien faite. Et puis, qu'à l'école déjà, on parle de sexualité aux enfants. Je me dis que c'est bien d'initier l'éducation sexuelle à l'école.
Et vous, Prosper?
Moi, à mon niveau, c'est surtout la fin de l'histoire qui m'a marqué. Le fait que la grande sœur Edine demande à sa sœur de se taire parce que les parents pourraient entendre leur conversation. Ça dénote au fait que la sexualité reste toujours un tabou entre nos quatre murs et il faudrait vraiment que, comme la bonne dame qui allait sensibiliser à l'école, qu'on puisse amener cette sensibilisation-là jusqu'à l'intérieur des foyers. C'est très important.
Ok, Prosper, nous restons avec vous. Et à 12 ans, Edine a déjà des notions sur sa sexualité. Selon vous, c'est déjà trop tôt ou c'est le moment propice?
Je pense qu'à 12 ans, c'est bien parce que lorsqu'on prend, on regarde de nos jours les faits de société, surtout les grossesses non désirées en milieu scolaire, on voit que déjà à l'école primaire, on a des cas. Ce qui veut dire qu'à 12 ans, normalement, pour un cycle normal d'une jeune fille, elle est plus ou moins au stade de CM ou encore de la 6e. Il est déjà bien ayant quelques notions en sciences naturelles ou en sciences d'observation et tout ça, en fonction du stade bien sûr, qu'on puisse commencer à insérer, bien sûr, en fonction du niveau, adapter le message, le contenu et faire passer ça aux jeunes filles à 12 ans. À 12 ans, c'est bon.
Marinette, Armelle dit que quand elle a eu ses premières règles, elle a eu peur. Et vous, comment ça s'est passé quand vous étiez dans la même situation? Quelle a été votre réaction?
J'avais déjà eu la chance que ma grande sœur, j'ai acquis l'expérience avec elle. Donc, à ma première fois, je savais déjà, donc j'ai pas eu peur.
Comment vous avez réagi?
En fait, comme je savais déjà, j'attendais au fait le jour, puisque à chaque fois je la voyais qui faisait un peu ses, changeait un peu ses couches, j'étais un peu impressionnée, donc je la demandais souvent. Et puis elle me disait qu'il faut pas être pressée, que non, ton tour viendra. Donc quand c'est venu net, je me suis dit que non, c'est ça, donc. J'ai pas eu peur, quoi.
Mieux comprendre ce qui se passe dans son corps quand on grandit, savoir que garçons et filles, hommes et femmes, nous avons des droits et que notre corps est protégé par des lois, apprendre qu'on peut éviter les maladies sexuellement transmissibles ou les grossesses non désirées, l'éducation sexuelle peut apporter beaucoup aux élèves. Mais qu'en pensent les citoyens et citoyennes? Suivons notre micro-trottoir du jour.
Selon vous, est-ce qu'il est important d'enseigner l'éducation sexuelle à l'école?
Je dirais oui. Cela est très important d'inclure l'éducation sexuelle au niveau scolaire parce que cela, bon, ça va aider beaucoup. Mais je pense que l'information ne doit pas venir des éducateurs, ne doit pas venir des enseignants. Voilà. Je pense qu'on peut commencer dès la base à la maison en montrant aux jeunes garçons et à la jeune fille, voilà ceci ou cela. Voilà, si tu fais ceci, voici les conséquences. Si tu t'abstiens, voilà, 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 voilà. Mais c'est très important aussi d'inclure l'éducation sexuelle à l'école.
C'est d'ailleurs très bien même de faire l'éducation sexuelle une matière à l'école. Parce que quand vous regardez, beaucoup de parents considèrent la question comme un tabou. Ils refusent d'en parler aux enfants alors que ça apparaît comme une nécessité. Donc sur ce point, je pense que si on en arrive, je pense qu'elle est la bienvenue.
Moi, c'est normal. Celles qui sont intelligentes, donc, elles vont suivre. Mais celles qui ne sont pas intelligentes aussi, c'est leur problème.
À l'école, l'éducation sexuelle, je pense que ce n'est pas aussi important. Ce n'est pas trop important, quoi. Parce qu'en disant par exemple à l'enfant, voici ce qui est là, voici ce qui est là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que non, quand on dit à un enfant, voici, quand tu veux faire le rapport, voici le préservatif, comment tu vas montrer ça, tout genre comme ça. Et vous, on constate que non, on distribue des préservatifs aux enfants. Quand on distribue des préservatifs à un enfant de 14 ans, ça vous lui dit quoi?
En tout cas, c'est une bonne idée. Les cours où les professeurs expliquent un peu ce que c'est que la vie sexuelle, ça oriente beaucoup les élèves. Même à l'âge de 10 ans, tu peux connaître, mais ne pas pratiquer. Souvent, on donne des conséquences, en même temps des avantages. Et moi, si je sais que j'ai 10 ans et que je ne peux pas faire des rapports, je m'abstiens. En même temps qu'on donne les conditions nécessaires et les avantages, ça permet aussi à l'élève de mieux comprendre la vie et de mieux s'orienter. C'est comme ça.
Bon, à l'école, oui, mais à des niveaux élevés. Par exemple, en terminale, seconde terminale, les enfants qui sont un peu majeurs, ils ont au moins 18 ans, il n'y a pas de problème. Mais si déjà au CM2, on distribue des condoms aux enfants là-bas, vous voyez que c'est vraiment pas... C'est pas africain, ça.
Bon, pour moi, c'est très important parce que on dit que si tu sais que tu ne peux pas échapper la chose, il faut mieux te préparer à l'avance. Voilà, si c'est mieux, puisque l'interdit de ne pas faire, encore l'erreur. Mais quand tu laisses comme ça, pensant qu'elle est ignorante, pourtant elle a des films, elle suit les films, et elle fréquente aussi ses camarades qui lui parlent de ça, ça, c'est ce qui le pousse à vérifier la curiosité pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si on l'introduit ça à l'école, ça lui permettra de savoir qu'on ne l'interdit pas de faire, mais on lui permet d'atteindre un certain âge d'abord avant d'y commencer. Je prends un exemple, un jeune homme qui n'a pas peut-être 18 ans, 20 ans et qui se fie à des rapports sexuels. Je pense qu'à l'éducation, ça serait un peu bizarre parce que chez lui, c'est la vie. Il ne sait pas que c'est un jeu qui est passager. Bon, on l'utilise parfois pour juste le plaisir et ça passe. Mais pour lui, comme il n'est pas encore mature, Ils pensent que c'est ce qu'on appelle la jeunesse. Voilà, ils l'ignorent de construire sa vie et ils s'intéressent seulement qu'à ça. Donc c'est beaucoup important aussi pour les jeunes hommes. Mais si on introduit à l'école, je pense que c'est pour le tout. Les filles comme les hommes doivent savoir vraiment que c'est après une certaine âge, devenir mature, peut prendre assumer certaines responsabilités qu'il faut te fier à ce genre de choses-là.
Alors, avant de recueillir vos réactions, chers invités, j'aimerais vous donner quelques informations sur ce sujet. L'éducation à la vie familiale, à la vie sexuelle et à la santé de la reproduction en milieu scolaire est une intervention à haut impact en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Elle permet de proposer des informations précises, exactes, non moralisatrices et adaptées à chaque tranche d'âge afin de promouvoir des comportements sains et responsables en matière de sexualité et vie procréatrice. À ce jour, au Burkina Faso, des efforts pour limiter les grossesses précoces non désirées ont porté sur l'adoption d'un plan stratégique de la santé des jeunes courant 2015-2020, le développement de programmes et projets par les organisations de la société civile au profit des jeunes, des campagnes nationales de sensibilisation en milieu scolaire, la création et animation de centres d'écoute, le développement de la paix éducation dans les établissements. À ce jour, il n'y a pas encore d'intégration systématique de modules en santé sexuelle et reproductive dans les curricula scolaires. Par contre, le contexte politique est actuellement favorable à une mise en place complète et systématique de l'éducation à la vie familiale, à la vie sexuelle en milieu scolaire. Le Premier ministre a pris un engagement fort en faveur de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire lors de son discours de politique générale devant les députés le 5 février 2016. L'intégration de modules SR dans les curricula du secondaire est donc une priorité du gouvernement actuel. La société civile et les ministères concernés, notamment le ministère de l'Éducation nationale, sont mobilisés autour de la question. Chers invités, après ces informations, je vous rappelle que dans notre micro-trottoir, la plupart des citoyens sont favorables à l'éducation sexuelle à l'école. Alors Marinette, vous a-t-on déjà parlé de sujets liés à la vie familiale ou à la sexualité à l'école?
Oui, on m'en a déjà parlé de ça à l'école, plus précisément.
Dans quelle classe, quand vous étiez dans quelle classe, par exemple?
Je pense que c'est à ma seconde.
On parlait de quoi, précisément?
C'était le comportement d'un jeune pubère qu'on a essayé de développer. Quand un jeune atteint l'âge pubère, il se croit tout permis. Donc, il essaie de faire des choses qu'il ignore vraiment. Mais s'il n'a pas reçu des conseils, il peut faire des trucs qui auront des conséquences après. Je me dis que si on approche ce jeune et puis on l'explique un peu, il saura quoi faire et puis face à une telle situation et puis essayer d'éviter quelques dégâts qu'il peut faire par ignorance.
Prosper, selon vous, pourquoi les professeurs refusent-ils de parler de sexualité alors que c'est leur devoir d'informer les enfants pour ce qui est de l'anatomie et de la reproduction?
Au niveau du corps enseignant, c'est surtout par manque d'intégration pratique d'un programme spécifiquement dédié à l'éducation sexuelle. Par exemple, je sais que les professeurs de sciences naturelles font ce que le chapitre sur la reproduction, mais il s'agit juste d'informations sommaires, linéaires, sur les appareils génitaux, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On fait juste une description, mais on n'attaque pas le volet social. Parce que là, il s'agit de montrer les dangers d'une sexualité trop tôt, et des risques qu'on prend lorsque, par exemple, on fait un rapport sexuel. L'élève n'a pas ces informations-là à l'école pour le moment. Donc, le professeur ne peut qu'enseigner ce qu'on lui a dit d'enseigner.
Prosper, Marinette, elle a déjà reçu des notions sur sa vie sexuelle en classe de seconde. Est-ce que selon vous, c'est le cas dans toutes les écoles?
Je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les écoles parce que l'éducation ou l'enseignement diffère d'un établissement à un autre. C'est une réalité qu'il faut qu'on prenne en compte. Bien sûr, il y a dans le programme officiel que le ministère demande d'enseigner en sciences de la vie et de la terre à partir de la classe de 3e, on parle de la reproduction chez l'homme. Et en parlant de la reproduction, on effleure un peu cette question de sexualité, mais c'est juste une présentation sommaire. Moi, j'ai la première fois que j'en ai bénéficié de notions sur la sexualité à l'école, c'était justement en classe de 3e, sur le cours en SVT et dispensé par le professeur sur la reproduction. Et après cela, c'est juste en terminale, lorsqu'on voit un peu, bon, bien sûr en fonction de la série, parce que moi j'ai fait une série scientifique, donc on a eu à voir un peu l'étude karma de la génétique. Et pour étudier la génétique, on revient un peu sur la reproduction qu'on avait vue précédemment en troisième. Donc, il y a entre-temps, si vous remarquez, j'ai parlé des deux classes, la troisième et la terminale. Il y a comme un vide parce que les professeurs n'attaquent pas l'angle sur le point de vue social, c'est-à-dire les conséquences, par exemple, d'une sexualité, les maladies sexuellement transmissibles. On n'a pas d'informations qu'on donne à l'élève spécifiquement pour qu'il soit assez armé et qu'il adopte un comportement sain qui puisse se prémunir d'éventuels problèmes de santé liés à la sexualité. Donc pour ma part, je n'ai pas eu la chance que mon collègue ici présent a eu parce que j'ai fait mon cycle un peu plus tôt qu'elle. Voilà, c'est peut-être ça. Mais il faut reconnaître aussi que de nos jours, on constate sur le terrain qu'il y a de plus en plus des actions qui sont menées. Bien sûr, indépendamment de l'absence d'un programme officiel, il y a quand même des actions menées par-ci par-là, par des organisations de la société civile. Et c'est des actions à encourager.
On reste avec vous. Selon vous, les professeurs sont les mieux placés pour parler de sexualité aux enfants?
Je vais répondre par l'affirmative parce que l'enseignant déjà connaît et plus mieux son élève plutôt qu'un acteur externe au milieu scolaire. Le professeur tient l'élève très souvent depuis son jeune âge et a l'occasion de le voir évoluer. Donc il s'installe entre une forme de relation qui puisse permettre qu'un certain nombre de messages puisse passer facilement par le professeur et reçu par les élèves. Je ne dis pas qu'un autre acteur n'est pas mieux indiqué, mais le professeur est mieux placé pour donner un certain nombre d'informations sur la sexualité et les élèves seront plus réceptifs parce qu'ils ont l'habitude de recevoir les notions de la part de ces professeurs.
Et vous, Marinette, le professeur est bien placé pour parler de sexualité à l'enfant?
Je me dis que oui, mais je dirais que la base, ça doit venir un peu des parents. Il faudrait que les parents essaient d'aborder un peu ce sujet avec les enfants avant que les professeurs qui sont leurs éducateurs, eux, ils peuvent un peu les amener à pouvoir bien gérer leur sexualité.
Mis à part le professeur, vous proposez que les parents, et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent influencer?
Oui, je me dis que il y a des structures qui en parlent des fois, surtout les centres jeunes, eux, ils s'en occupent.
Et selon vous, professeur, qui d'autre peut parler de sexualité, mis à part le professeur?
Bon, mis à part le professeur, il faudrait déjà, parce que l'éducation ne commence pas au sein de l'établissement scolaire. L'éducation d'un enfant commence déjà dès la base et c'est à la maison. Donc les acteurs les mieux placés et qui devraient jouer le premier rôle en termes d'éducation sexuelle, c'est bien sûr les parents. Parce que quoi qu'on en dise, l'enfant, il est rattaché à sa famille et il écoute ce que ses parents lui disent. Voilà, donc si les parents peuvent être les premiers et surtout la base pour parler de l'éducation sexuelle, là les éducateurs au niveau de l'école ne feront que compléter compléter la formation déjà reçue à la base. Donc il est essentiel que les parents s'impliquent pour parler de sexualité à la maison. Même si je reconnais avec vous que dans nos mœurs, ce n'est pas évident, mais il faut surtout qu'on travaille à aller vers ça.
Oui, on est conscient que la sexualité, c'est un tabou, c'est difficile à parler, on ne peut pas discuter avec son enfant. Et Marinette, quelles peuvent être les difficultés, les obstacles pour parler de l'éducation sexuelle à l'école?
Je me dis que c'est un peu difficile de parler de cela aux enfants, vu qu'on n'a pas vraiment intégré un programme pour parler de la sexualité à l'école.
Professeur, quels peuvent être les obstacles pour parler de sexualité à l'école?
C'est déjà les pesanteurs au niveau de la société, parce que la sexualité, quoi qu'on en dise, ça reste un tabou dans nos sociétés traditionnelles. D'une génération à l'autre, il y a comme ce refus de s'ouvrir, parce qu'on considère que ce qu'on a reçu des anciens était comme ça, marché comme ça. Bien sûr, bon, très souvent, on présente le bon côté, mais on oublie que les choses évoluent et que en fonction de l'époque là où on se situe, on doit essayer d'adapter ces réalités à ces problèmes. Et aujourd'hui, on doit donc travailler à intégrer l'éducation sexuelle, déjà de la part des parents. Je vais prendre juste l'exemple sur le plan social de la télévision. De par le passé, les anciennes générations n'ont pas connu la télévision. À un certain moment, la télé est apparue et la télé véhicule un certain nombre d'images. Voilà, donc quand l'enfant capte ces images et il n'a aucune information pour ça, pour trier, qu'est-ce qui est bien dedans, qu'est-ce qui est juste dans un contexte de film, et ça doit rester dans le film, et dans la réalité, il ne faut pas le faire, il est laissé à lui-même. Et donc, il va expérimenter un certain nombre de choses, pensant et construire ça lui-même, sa propre expérience. Du coup, il est laissé à lui-même et il n'est pas à l'abri de problèmes liés à la sexualité. Voilà, donc ne serait-ce que rien que l'exemple de la télévision aujourd'hui, avec les programmes télé, on voit qu'il est essentiel et nécessaire que les parents parlent de sexualité parce que très tôt, par les images, l'enfant est déjà éveillé.
Mais à l'école, comment on peut intégrer l'éducation sexuelle à l'école?
Voilà, maintenant, vu que l'école est censée former l'enfant pour l'armée, et à ce qu'il devienne un bon citoyen dans la société. Le bon citoyen aujourd'hui est celui, bien sûr, qui a un certain nombre de notions face aux problématiques de son époque. Et quoi qu'on en dise, les problèmes liés à la sexualité constituent un gros problème de santé publique dans nos pays. Au Burkina Faso ici, on a déjà, comme je le disais plus tôt, les OSC qui ont pris conscience et qui font un bon travail là-dedans. Mais il faut qu'on dépasse le cadre de quelques petits groupes pour généraliser ça, parce que ce qui est bien, on doit l'étendre à l'ensemble de la société. Et l'école, quoi qu'on en dise, reste un des moyens d'éducation pour les enfants. Et donc, on doit insérer au niveau de l'école dans les curricula.
Chers auditeurs et auditrices, vous suivez toujours votre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Et notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Après ce débat avec nos invités, je vous propose d'écouter l'avis de notre spécialiste pour votre rubrique « Éclairage d'un spécialiste ». Nous avons avec nous aujourd'hui M. Bayombwe Bachono, président du conseil d'administration du réseau africain Jeunesse Santé et Développement du Burkina Faso, RAJS-BF. Monsieur Bayombwe Bachono, en tant que président du conseil d'administration du réseau africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina Faso, l'éducation à la vie sexuelle à l'école a-t-elle vraiment fait ses preuves?
Quand nous commençons les activités dans les années 1994, il y avait le programme qu'on appelle EMP, éducation en matière de population. On avait insisté avec l'appui des agents du système des Nations Unies, en particulier le FUNIAP, pour que ce concept qui avait été développé dans un certain nombre de pays soit aussi exécuté au niveau du Burkina Faso. Et à l'époque, je pense qu'ils avaient mis en place une stratégie qui devait permettre d'avoir des expériences pilotes qui devaient démontrer l'évidence. Qu'est-ce qui permettait de renforcer les capacités du jeune, de l'adolescent, à pouvoir gérer les questions liées à la sexualité? Mais je pense que par la suite, bon, ce programme s'est arrêté. Ça fait qu'aujourd'hui, au Burkina, je sais que la dernière fois quand j'ai participé à un débat, je pense que la direction a changé de nom, où on parle d'éducation en matière de population, de civisme, de citoyenneté. Mais jusque-là, les curricula ne sont pas obligatoires. On laisse le choix à l'encadreur ou à l'enseignant d'aborder ces questions-là. Pendant que je pense qu'il faut revoir les curricula. Quand on parle de sexualité, là, ce n'est pas seulement une histoire de sexe. C'est tout le processus d'éducation à la vie familiale. Comment gérer les rapports sociaux en fonction de son sexe. En fonction du sexe féminin, comment se comporter. En fonction du sexe masculin, comment se comporter dans la vie pour que la vie soit meilleure. Au lieu que la vie, souvent, se trouve être un drame pour certains à cause de leur rapport en lien avec leur sexe.
A-t-on des exemples de projets réussis d'éducation sexuelle à l'école au Burkina Faso?
Vous savez, le problème de nos pays, c'est que la plupart du temps, on a toujours des expériences pilotes, mais on ne transforme pas cela en processus institutionnel. Parce que je trouve que si on a fait des expériences pilotes et que les questions voient le phénomène de grossesse dans les établissements, pourquoi ne pas en faire une priorité de communication avec les enfants pour leur permettre de mieux gérer leur vie, de mieux gérer leurs rapports sociaux avec les uns et les autres pour éviter que cette formation qui doit les préparer à un bel avenir débouche par exemple sur un traumatisme qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Donc pour moi, il y avait des écoles qui existaient, mais malheureusement, les gens n'ont pas, ne sont pas allés jusqu'au bout du processus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue d'en parler. Même au temps fort de la lutte contre le VIH-SIDA, nous avons insisté, étant donné que le VIH-SIDA n'épargnait ni les adolescents et les jeunes, ni les enseignants, on avait demandé de faire de l'enseignement de la prévention de la lutte contre le VIH-SIDA dans les curricula. Il sait qu'il y a des partenaires qui nous ont appuyés pour qu'au niveau du ministère qui était en charge de l'éducation et des enseignements, les modules soient élaborés, mais ils demandaient tellement de formation qui n'était pas dans le cadre des écoles, pendant que nous avons dit que non, il ne sert à rien de faire des formations avec des ateliers de PEDIEM. Il suffit seulement de réviser les curricula de l'ENEP et de l'ENSP pour faire en sorte que tout enseignant qui va arriver et qui doit sortir là, il puisse être orienté sur ces questions-là et quand il sort dans sa pédagogie, il peut aborder les thématiques.
Et a-t-on des exemples réussis en la matière dans la sous-région ?
Dans le système francophone, nous sommes un peu susceptibles. On pense que orienter l'enfant sur comment on prend des mesures, c'est comme si on pousse l'enfant à découvrir certaines choses. Pendant que non, la connaissance permet à la personne d'aborder les choses avec beaucoup de maîtrise. Par contre, l'ignorance, c'est ça qui vous amène souvent dans le gouffre. C'est la raison pourquoi les gens ont adopté, par exemple, quand vous allez à côté au Ghana, on en parle. Si vous prenez, par exemple, le jeune garçon, l'apprendre comment il doit s'habiller, comment il doit comprendre les phénomènes qui se développent en lui, comment il doit faire en sorte pour prendre des précautions pour éviter d'avoir des problèmes dans sa vie. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Et je pense que dans tous les pays où vous voyez que les adolescents et les jeunes arrivent à s'en sortir, mais les gens sont orientés en amont pour savoir dans quelles conditions, si je vais avoir un rapport sexuel, de l'avoir et éviter que ça soit un drame.
Monsieur Bajono, selon vous, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Si les parents savent, ils savent qu'on ne va pas parler de sexe à leurs enfants. Il suffit seulement de les faire comprendre que quand on parle de sexualité, ce n'est pas seulement de rapport sexuel. C'est juste amener l'enfant à comprendre en fonction de son statut de sexe féminin ou masculin, quels sont les comportements, les rapports sociaux qu'il doit avoir pour pouvoir non seulement améliorer son épanouissement et améliorer sa vie. Si c'est que ça, pourquoi les parents acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école? Parce qu'on dit que l'école va apprendre à leurs enfants à avoir un bel avenir. Et c'est la raison pourquoi ils les envoient. Donc si on leur explique les bien fondés de ces matières liées à la sexualité, ils vont comprendre que ce n'est pas des cours sur des actes, comment faire des rapports sexuels, mais c'est des cours, comment gérer sa vie sexuelle pour ne pas tomber dans les affres, pour ne pas tomber souvent très tôt dans les rapports sexuels avec une méconnaissance des conséquences que cela peut générer sur la vie de l'enfant.
Merci à M. Bayumbwe Bachiono pour ses éclairages. Maintenant, nous allons évoquer un blocage à lever dans les années à venir. Je vais m'adresser à Prosper. Selon vous, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Il faut passer par la sensibilisation. Les parents sont convaincus qu'en mettant l'enfant à l'école, c'est pour lui augurer un meilleur avenir. Donc, il faut juste leur faire comprendre qu'en plus de ce qu'on lui apprend comme formation théorique ou pratique, on doit aussi le former sur le plan social, à savoir les questions liées à sa sexualité. Voilà. Donc, il faut une sensibilisation qui est tendue au niveau des parents et leur faire comprendre, surtout pour ceux-là qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants à la maison, à parler de sexualité, qu'à l'école, on pourrait prendre la relève. On pourrait commencer, mais il faudrait qu'eux aussi puissent s'impliquer plus tard.
Vu le contexte culturel du Burkina Faso, oui. Vous pensez que cela sera facile?
Bon, rien n'est facile en termes de changement. Voilà, parce que nous sommes dans des sociétés malheureusement un peu fermées. Voilà, on est très méfiant face au changement. On a coutume ici d'entendre les gens, ce qui a marché hier et dont on a vu les preuves, Il nous faut juste que reconduire ça aujourd'hui, tout en oubliant que les contextes changent, chaque situation évolue, et donc chaque génération doit s'adapter en fonction de sa situation. Il n'était pas urgent, je dirais, de parler de sexualité. Aujourd'hui, avec l'évolution même de la société, il faudrait qu'on en parle, et en parler le plus tôt serait le mieux.
Et vous, Marinette, comment on peut rassurer les parents à éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
À travers les sensibilisations, on peut amener les parents à accepter un peu l'intégration de la sexualité à l'école.
François, vous avez ajouté quelque chose?
Voilà, je voudrais juste dire que pour mieux convaincre un parent, il faut juste essayer, ce sera peut-être pas et en termes de droits individuels, mais lorsqu'on regarde les statistiques et qu'on voit les cas de grossesse non désirée et de grossesse précoce des enfants, il faut juste demander aux parents d'imaginer son enfant qui l'a mis à l'école, notamment sa jeune fille. Si cette situation devait lui arriver, voilà comment tout son espoir, parce qu'en mettant l'enfant à l'école, c'est comme un investissement. Comment l'investissement pourrait être compromis lorsque on n'éduque pas l'enfant à certaines notions liées à sa sexualité? Et donc, je pense qu'en présentant surtout les conséquences des grossesses précoces sur la scolarité et l'avenir même des jeunes enfants, cela pourrait amener les parents à réagir positivement et à accepter enfin d'inculquer l'éducation sexuelle à leurs enfants.
Marinette, quel message lancez-vous aux décideurs sur l'importance de l'intégration de l'éducation sexuelle à l'école?
L'intégration de la sexualité à l'école est très capitale, parce que ça permet aux jeunes de pouvoir prendre en responsabilité sa propre vie et de pouvoir plus tard devenir un homme responsable, je me dis, à travers ce qu'on va faire à l'école.
Et mais quel appel vous avez à lancer à nos gouvernants?
Je demande au gouvernement d'intégrer un programme spécifique pour ce qui concerne la sexualité à l'école, pour qu'on puisse mieux éduquer et informer surtout les jeunes à l'école.
Conspect, quel message vous avez à lancer aux décideurs sur l'intégration de l'éducation sexuelle à l'école?
Je pense qu'au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, il n'est plus à même de montrer l'importance de l'éducation sexuelle à l'école. Je vais simplement aborder dans le même sens que notre expert, M. Batiounot, qui a demandé à ce qu'on puisse intégrer dans les formations des enseignants et même des professeurs l'éducation sexuelle, pour que lorsqu'on a un enseignant qui sort d'une école de formation et qui doit aller enseigner quelque part, il ait déjà des notions assez claires de poser et que dans son programme, il puisse en même temps véhiculer ça. Et moi, je vais même associer à cela aussi la santé, parce que dans notre pays, ce qui touche au volet social, c'est surtout l'éducation et la santé. Partout, que l'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, on voit que l'État fait des efforts pour construire des écoles, pour construire des centres, des CSPS, des centres de promotion sociale en santé. Il faudrait qu'en plus, parce que pour le personnel sanitaire, certes, on essaye d'apprendre à former, mais il n'y a pas ce volet éducatif spécifique qu'il puisse y avoir au sein des CSPS, des cellules qui vont vraiment fonctionner, où on va inculquer vraiment à la population la base sur l'éducation sexuelle. Parce qu'on voit qu'au niveau de ces centres, c'est plus les parents qui y vont, et donc on va commencer la sensibilisation là-bas, et le monde scolaire va prendre la relève pour terminer. Donc vraiment, que nos autorités puissent utiliser ces deux canaux-là en renforçant les compétences des personnels, et afin qu'ils puissent aider à vulgariser l'éducation sexuelle partout dans le pays. Donc, j'encourage nos autorités et je les exhorte à aller au-delà des déclarations et à vraiment se lancer là-dedans, parce que c'est très, très bien pour notre pays.
Merci à vous, chers invités. Nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de finir, nous allons donner la parole à notre champion pour lancer un message. Bonjour, Madame Brigitte Sien. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation sexuelle à l'école. Je rappelle que vous êtes juriste, chargé de plaidoyer à l'ONG Équilibre et Population. Vous êtes aussi championne et vous êtes engagée dans la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Madame Sia, dites-nous pourquoi vous vous êtes engagée pour cette cause.
Je peux dire que mon engagement part de plusieurs constats et surtout un constat qui est le principal, c'est surtout l'augmentation des grossesses précoces non désirées en milieu scolaire. On s'est rendu compte qu'au Burkina Faso, de plus en plus, on a beaucoup de filles qui abandonnent l'école parce que tout simplement victimes de grossesses précoces non désirées avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Les avortements clandestins et qui conduisent au décès, l'abandon scolaire, et c'est vraiment dramatique de voir que voilà, à cause d'une grossesse non désirée, les filles sont obligées de bafouer leur futur et de rester à la maison parce qu'elles n'ont pas d'autre solution.
Quelles actions menez-vous par rapport à l'éducation à la sexualité des jeunes?
Nous avons mené beaucoup d'actions en matière de plaidoyer à l'endroit des autorités nationales. Et à cet effet, nous avons mis en place un comité multisectoriel de réflexion. Et les fruits de cette réflexion, nous avons pu dégager une recommandation relative à l'intégration des modules sur la santé sexuelle et reproductive dans les curricula de formation en milieu scolaire. Et nous pensons que si les autorités arrivent à élaborer les modules sur la SE et à les intégrer dans les curricula de formation pour pouvoir donner des informations de base aux élèves, nous pensons que de moins en moins, des filles tomberont enceintes par ignorance et cela aussi va significativement contribuer à la qualité de l'éducation et surtout aussi de leur maintien à l'école. Et il faut se dire que nous, à Équilibre Population, nous sommes plus dans le plaidoyer. Et donc nous faisons le plaidoyer surtout au niveau national, au niveau sous-national, si on peut bien le dire ainsi, pour pouvoir amener et pour pouvoir contribuer à lever les barrières, pour pouvoir permettre l'intégration des modules essais dans les curricula de formation. Du reste, nous avons d'autres structures qui sont dans le domaine aussi de la santé sexuelle et reproductive, qui sont dans l'offre des services et qui ont déjà, de par le passé, conduit des activités de sensibilisation sur la SR dans les différents établissements. Ce qui a permis en tout cas de donner des informations voilà, sur les précautions à prendre pour ne pas tomber enceinte. Mais du reste, il faut se dire que ce sont des activités éparses qui ne sont pas aussi coordonnées que ça et qui n'arrivent pas à profiter à tous les élèves. Donc c'est généralement dans les établissements où les activités se déroulent, ce sont ces élèves qui en profitent. Mais du coup, il reste encore beaucoup d'autres dans d'autres établissements qui sont toujours dans l'ignorance et qui ont besoin aussi de ces éléments de clarification pour une sexualité saine.
Brigitte Sien, quel message adressez-vous aux décideurs?
J'ai un message, mais qui n'est pas forcément nouveau parce que, ayant déjà eu à faire des activités de plaidoyer, et il faut se dire aussi que ce sont ces activités de plaidoyer qui ont conduit le Premier ministre à prendre l'engagement de faire de l'éducation sexuelle en milieu scolaire une priorité dans sa politique de déclaration le 5 février 2016. Et pour nous, c'est que l'appel que nous avons à lancer à l'endroit de ces autorités, c'est que cet engagement puisse être traduit en acte. Que cet engagement puisse être opérationnel, que d'ici, en tout cas, la fin du mandat, que nous puissions avoir des modules SR intégrés dans les curricula de formation, ce qui va contribuer substantiellement à lutter contre les grossesses précoces non désirées en milieu scolaire, parce que les filles et les garçons, si on peut bien le dire ainsi, seront assez informés et sauront quelles sont les conduites à tenir pour ne pas tomber dans le piège.
Merci, Madame Sia.
C'est moi qui vous remercie.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et championnes engagés dans ce domaine à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Nous sommes à la fin de notre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes et notre thème du jour portait sur l'éducation sexuelle à l'école. pour bien entrer dans l'âge adulte, les jeunes ont besoin d'être informés et d'avoir les connaissances et les compétences qui leur permettront de faire des choix responsables concernant leur vie sociale et sexuelle. L'école a un rôle capital à jouer pour leur donner accès à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles. La route est longue, mais le combat est juste. Ne baissons pas les bras et ensemble choisissons l'avenir. Merci, chers invités, d'être venus. Et merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. À la présentation, Rukiatou Kafembou, réalisation, Tidiane Tiang.